Et qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Bah, il faut se poser la question, je crois, parce qu'à force de morale et de loi, on risque un jour de ne plus en avoir le droit. Qu'est-ce qui me fait rire, moi? Blanche Gardin, ma voix, ce matin, et la tête de mon chien quand je lui ai adressé la parole, mélange de stupeur et de mépris, les blagues interdites, tout ce qui est limite, l'irrévérence et le politiquement incorrect, qui ne consiste pas à dire du mal du pouvoir en place, mais plutôt ce qui provoque la gêne ou un silence qui dérange vraiment, tout ce qui est dissonant. Par exemple, une blague sexiste, ça me fait rire, et de plus en plus, non pas pour la blague en tant que telle, mais pour la gueule de celles et ceux qui la reçoivent. C'est ça qui est comique et de plus en plus aujourd'hui. Les ruptures de rythme, ça me fait rire aussi. Les fins de phrases qui claquent ou qui tombent, le décalage, l'incongru, dans les mots comme dans la vie. La douce folie aussi. Dans la série Friends, le personnage de Phoebe, le chatouillement, le gaz hilarant, Valérie Lemercier évidemment, l'outrance, l'exagération, le grossissement du monde, mais aussi le personnage de la servante ou de la bonne au théâtre qui partage avec le public la vérité que les autres personnages ne veulent pas voir en face. Et puis les gens pas drôles, c'est souvent très drôle. Le moment où on n'a pas le droit de rire me fait toujours rire. Les enterrements, les têtes d'enterrement, et puis le rire des autres aussi. Ça me fait rire, autant pour leur tête que pour leur rire en tant que tel. Le son, la contagion, le moment où on rit tellement qu'on en pleure, qu'on se tord, qu'on en a mal, qu'on donnerait tout pour s'arrêter. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Sans rire.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelle vertu mon invité d'aujourd'hui prête-t-il au rire? Il vous en a procuré des éclats de rire avec sa série Palace, mais aussi avec son théâtre sans animaux, ses brèves de comptoir ou encore son muséo Muséba qui ont tous fait date. Préparez-vous à quelques crampes salvatrices. Avec Sulky et Sulky ont des conversations intelligentes. Sa nouvelle création au théâtre du Rond-Point, dialogue teinté d'absurde, de fantaisie, d'actualité aussi. Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là tout d'abord. En vrai,
merci à vous.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie?
Moi, ce qui me fait rire, c'est en effet, vous avez assez bien résumé le tout ce qui me fait rire, soit qu'on est proche l'un de l'autre. J'aime beaucoup les gens, vous savez, Rabelais appelait les gens qui ne rient pas les agélas, ce qui était ses ennemis. Agélas, ça veut dire, gélas, c'est le rire, et a priori, c'est les gens qui ne rient pas. Et je veux dire que les gens qui ne sont absolument pas d'humour du tout, j'aime beaucoup ça.
Et plus précisément dans l'actualité ces derniers jours, vous trouvez matière à rire en ce moment?
Non, moi je suis pas doué comme certains auteurs qui ouvrent un journal et tout d'un coup se disent, tiens, il y a la guerre en Irak, tiens, il y a je sais quel truc fiscal, ça. Je sais pas faire ça. Par contre, c'est vrai que le matin, j'ai des petits rêves et je trouve des personnages qui m'entraînent et je les suis. C'est-à-dire que ça... Alors évidemment, ces personnages, avant, ils ont trempé dans l'actualité, quelque part, ils en reparlent.
Et oui, parce que dans Sulky et Sulky, votre nouvelle pièce, vous riez de tout ou presque, de tout ce qui ne prête pas forcément à rire, et notamment du terrorisme et de l'intégrisme religieux. À quelles conditions, en réalité, est-ce qu'on peut rire de tout?
Ben, moi, je pense qu'on peut rire du tout à partir du moment où c'est drôle. Et je pense qu'en effet... non, mais c'est vrai. Moi, je pense en effet que l'ennemi absolu de Daesh, c'est de s'en moquer. C'est-à-dire que si... vous savez, un éclat de rire, c'est pire qu'un éclat d'obus. Et si on rit de Daesh, tout d'un coup, ils sont ridicules.
Enfin, c'est le dictateur de Chaplin.
Voilà, c'est le dictateur de Chaplin et plein d'autres. Mash, par exemple, c'était un film absolument formidable sur la guerre, etc. Moi, je pense que l'humour... Vous savez, Staline disait... qui était terrorisé par l'humour, disait « un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour ». Ce qui montre bien que ça a été... c'est ça le rire de résistance. C'est ce qu'il y a eu en Russie pendant des années. Il y avait des blagues, des rires qui passaient sous le manteau. Sinon, les gens ne peuvent plus respirer. C'est-à-dire, le rire, c'est l'irrévérence. C'est quand vous disiez au théâtre, moi, je pense qu'on dérange les gens. Les gens se dérangent pour venir au théâtre. La moindre des choses, c'est qu'on les dérange en retour.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de militant, Jean-Michel Ribes, dans votre conception du théâtre. À vous entendre.
En tout cas, c'est pas militant. C'est tout d'un coup de dire vraiment ce qu'on sent, quoi. C'est l'air de, moi, je fais du théâtre depuis que je suis très enfant, que pour me désennuyer. J'espère désennuyer les autres. Voilà.
Quel lieu est-ce que c'est pour vous?
Comment?
Le théâtre, quel lieu est-ce que c'est?
Ah bah c'est une issue de secours. C'est un endroit, comme le disait Aragon, c'est on creuse des galeries vers le rêve. Je veux dire que moi, j'espère simplement que tous les gens qui sortent du rond-point se sentent mieux que quand ils sont entrés. C'est un lieu de respiration, d'oxygénation. C'est un lieu où les gens doivent se dire, bah finalement, tout n'est pas foutu. On nous montre d'autres planètes.
Et pourtant, c'est un lieu où on peut s'ennuyer.
Au théâtre,
ouais.
Énormément. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Vous savez, on dit au théâtre, vous regardez votre montre, il est 9h. Vous la regardez 2 heures après, il est 9h10. Oui. Mais non, mais par contre, c'est l'endroit où on a pour moi les plus fortes émotions, parce que c'est du vivant, on est entre vivants, et ce qui n'est pas au cinéma, ce qui n'est pas ailleurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, que le théâtre n'a pas encore disparu, comme le carrosse a disparu avec l'automobile.
Mais je vous pose aussi la question de l'ennui, parce que ce que dit Sulky, ou peut-être est-ce Sulky, à un moment dans votre pièce, c'est qu'il arrive qu'on s'y ennuie au théâtre, vraiment. Par contre, devant un tsunami, dit-il, ou toute autre catastrophe naturelle montrée à la télévision, jamais.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, en effet, j'ai la sensation que le quotidien, les terroristes, tout ça, c'est ça le spectacle. Ça passe devant l'art. C'est-à-dire que, en effet, quand on voit les tours du mois de l'horrible histoire du mois de septembre 2001, c'est vrai que tout d'un coup, c'est passé sur toutes les chaînes, des millions de fois, et on se dit, finalement, ça devient de l'art contemporain. C'est-à-dire que les gens ne voient plus l'horreur, ils voient ça, ils voient le spectacle. Et je pense que le quotidien est passé devant l'art.
Mais comment on fait, Jean-Michel Ribes, pour que les pièces que l'on monte ou que l'on montre, puisque je rappelle, vous êtes directeur du Théâtre du Rond-Point, aient le même effet qu'une catastrophe naturelle, justement?
C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie, en effet, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit tremblement de terre, quoi, ou un tremblement de soi, ou un tremblement de public. Sinon, si on vient pour nous raconter que Madame Machin a divorcé avec Monsieur Truc et que la psychologie va essayer de sauver le pauvre fils qui est traumatisé, franchement, c'est pas la peine. Ou alors, faut s'asseoir dans la rue sur un banc et regarder ce qui se passe. Et puis voilà, c'est gratuit.
C'est quel genre de catastrophe naturelle, sulky et sulcu, ont des conversations intelligentes?
Comme catastrophe naturelle, j'espère que c'est la catastrophe qui montre que cette espèce de société formatée de gens qui savent, de gens qui nous disent toujours ce qu'il faut faire d'ordre moral, explose. Voilà, moi je suis pour mettre des petits pétards dans tout ça.
Et puis vous vous interrogez, comme souvent, c'est d'ailleurs assez délicieux, sur le rôle de l'art et de la culture dans nos sociétés. L'art qui, dites-vous, se fait constamment doubler par le quotidien. Oui. Pourquoi les gens continuent d'aller au théâtre, à votre avis?
Je pense que ça, c'est une vraie question. Et à mon avis, plus il y aura d'internet, plus il y aura de télévision, plus il y aura d'images, plus il y aura de choses qui déshumanisent le rapport à l'art, plus ils iront au théâtre. C'est un endroit où on se ressource, où les gens ne trichent pas, où ils voient des vivants avec du vivant, où ils ressentent ensemble, où le voisin est vivant, mais le type sur scène est aussi vivant. Je crois que c'était Edwige Feuillère qui disait, au cinéma, les acteurs ont joué, au théâtre, ils jouent. Et ils jouent devant vous. C'est assez miraculeux. Ça sera peut-être pas pareil le lendemain. Ils vont peut-être mourir sur scène. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est à main nue.
Qu'est-ce qui vous a incité, vous, Jean-Michel Ribes, à pousser la porte d'un théâtre pour la première fois?
Ça a commencé en cours de récréation, et sans vouloir faire du lacanisme de recréation, disons. C'est-à-dire que c'est vrai que je m'ennuyais beaucoup. C'est-à-dire que j'ai essayé, moi, de... Les choses m'ennuyaient un peu, alors j'essayais de remettre dans la bouche des gens des choses qui m'ennuyaient pas. J'inventais des trucs, je faisais des... Voilà, c'est ça, puis c'est venu tout naturellement, voilà.
Les premières pièces de théâtre que vous avez vues, c'était à l'école?
Non, les premières pièces de théâtre que j'ai vues, je me souviens, c'était avec ma mère. J'étais allé au théâtre Sarah Bernhardt, qui est devenu le théâtre de la ville à Paris, et c'était Cyrano de Bergerac que jouaient Pierre Dux et Françoise Christophe. J'avais 4 ans et demi, et j'étais absolument bouleversé. Je me suis dit, voilà, c'est là, ça, d'accord, il faut aller là, il faut aller avec ces gens s'amuser. Et j'étais très touché, parce que des années après, Françoise Christophe a joué une de mes pièces, Tout contre un petit bois, et j'étais bouleversé, je l'avais vue à 4 ans et demi, et maintenant elle venait jouer mes pièces.
Celle qui aime le théâtre dans cette émission, mais seulement lorsqu'elle est sous les feux de la rampe, évidemment, c'est la culture et son actualité. Moi, je. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 22 novembre? C'est parti. 3, 2, 1 et c'est parti pour le marathon d'automne, variante de fin d'année du célèbre festival toulousain. L'Autrichienne, prix Nobel 2004, Elfriede Jelinek, est déjà dans les starting blocks, tandis que la comédienne Clotilde Courau, elle, est encore à l'échauffement avant son hommage à Barbara. En tête de peloton, on trouve les auteurs des éditions verticales, comme Arnaud Catherine, Pierre Sange ou Guillaume Poix, qui ont accouru pour célébrer les 20 ans de leur maison, tous à fond. Pour le Grand Prix Chéri Chéri, le festival de cinéma LGBT+, Chéri Chéri, a révélé hier son palmarès. Résultat, c'est le très sensuel Call Me By Your Name de l'italien Luca Guadagnino qui emporte la mise. Sensation de Sundance et de Berlin, le film qui raconte la romance estivale d'un étudiant et d'un jeune prof, fait déjà secrètement partie des favoris dans la course aux Oscars. Voilà un prix qui a du chien, le prix 30 millions d'amis, considéré comme le Goncourt des animaux et décerné par un jury très chic, avec Michel Houellebecq et Teresa Crémisi notamment, a récompensé hier Denise au Ventoux, un roman de Michel Julien paru chez Verdier, le récit poignant de Denise, une femelle bouvier bernois recalée de l'école des chiens guides d'aveugles. Un bémol, il y a un peu trop de détails sur le physique du chien, aurait soufflé Michel, qui lui est toujours au poil. « mercredi d'humour, mais cinéma d'amour, car aujourd'hui dans les salles obscures, on dit bonjour à Madame, le marivaudage 4 étoiles d'Amanda Sterz porté par l'irremplaçable Rossi de Palma. On compte les points dans Battle of the Sexes, l'histoire vraie d'un match contre le machisme, signé Jonathan Dayton et Valérie Ferris, les auteurs de Little Miss Sunshine. Et sinon, on décolle pour la lune de Jupiter, le conte planant et engagé du hongrois Cornel Mondruksho. Go, go, go. Jean-Michel Ribes, invité de Boomerang, ce matin, et vous savez ce dont j'ai envie ce matin, moi Jean-Michel?
Non, j'ai envie de connaître votre envie.
Mais qu'on fasse un point Jean-Mi. Alors soyez honoré, on en fait rarement, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qui attire votre attention dans cette actualité de la culture? Est-ce que c'est le marathon d'automne de Toulouse, le festival du cinéma LGBT plus Chéri Chéri, le prix 30 millions d'amis, ou alors du cinéma?
Tout m'intéresse, mais je dois dire que l'idée du marathon... est une chose que je ne ferai jamais de ma vie, m'attire, qui était pour moi une activité totalement surréaliste, m'attire. Je voudrais rajouter une petite chose à ce que j'ai dit. Les gens ce qui me fait rire vraiment, c'est les gens qui se prennent au sérieux. Se pendre au sérieux.
Se pendre au sérieux, dites-vous. L'actualité, c'est aussi vous. Et votre nouvelle pièce, Jean-Michel Ribes, Sulcu et Sulcu, ont des conversations intelligentes. Alors, Sulky et Sulcu sont deux personnages œuvres d'art qui étaient déjà présentes dans une précédente création, Musée au Musée Bas. Il faut nous expliquer pourquoi vous les avez ressuscités.
Mais c'est pas moi qui les ai ressuscités, c'est eux qui ont voulu partir de la pièce.
Ah bah voilà.
Et avoir leur petit truc à eux tout seuls. Alors ils sont venus me voir un matin, ils m'ont dit non, on doit continuer, on veut plus être avec tous ces acteurs. Et je les ai suivis et voilà, ils m'ont dicté leur petite folie. Alors, c'est ce que je vous dis, moi je suis mes personnages. Dès que tout d'un coup, quand j'écris, je me dis tiens, ça veut dire quelque chose, ou tiens, je me prends au sérieux, ou tiens, je donne un message, j'arrête.
Alors vous entendez vraiment des voix, Jean-Michel Ribes?
Oui, c'est simplement... Oui, j'espère d'ailleurs avoir une statue à côté de celle de Jeanne d'Arc bientôt. Mais j'espère que Le Pen ne défilera pas devant moi.
Est-ce que ça veut dire que quand vous promenez dans un musée, les œuvres s'adressent à vous aussi, vous parlent directement, ou que vous entendez ce qu'elles se disent entre elles?
Vous savez, je trouve que les musées... Moi quand je préfère me promener dans un musée que dans une forêt de sapins. Je trouve qu'on y respire mieux. Je trouve qu'on voit des gens qui ont osé. Je trouve qu'on voit des gens qui nous disent, bah voilà, tout n'est pas foutu, il y a des choses possibles, on peut inventer encore. Moi, ça me fait un bien fou.
Et ça parle?
Et ça parle, évidemment que ça parle. Vous savez, il y a des gens même qui viennent et qui sont amoureux ou amoureuse d'une œuvre d'art. C'est une maladie formidable. Amoureux, tout d'un coup, type amoureux de la Joconde ou amoureux d'un tableau de Manet, l'homme, je sais pas quoi. Et ça, c'est bouleversant.
Mais qu'est-ce qu'ils se disent, surtout? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Et je trouve qu'elle est posée dans votre pièce. Si on imagine un dialogue entre la Joconde et la fontaine de Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'elle pourrait bien se dire?
Ah bah, ils sont très en liaison, vous savez. C'est-à-dire, les grandes créations se parlent évidemment entre elles. Vous savez, les œuvres poussent sur les œuvres. C'est les enfants, les œuvres d'aujourd'hui sont les enfants d'hier. Et comme tous les bons enfants, ils envoient chier leurs parents.
Mais c'est une question que vous posez hein, dans Sulky et Sulky ont des conversations intelligentes. Les œuvres d'art doivent-elles forcément dire et surtout signifier quelque chose? Après tout, peut-être oui. Pas.
Non, d'ailleurs, moi, il y a une chose, je suis désolé pour la ministre de la Culture que j'aime beaucoup et qui est mon éditrice depuis 25 ans.
C'est malheureux, ouais. Faites très attention à ce que vous allez dire.
Non, mais je veux dire, mais moi, l'action culturelle, c'est une des choses qui m'épuise le plus. C'est-à-dire que je pense que les Japonais ont raison quand ils disent que les enfants sont des génies et qu'à partir du moment on les met à l'école, ça devient des hommes. C'est réduit. Moi, je pense qu'un garçon de 5 ans devant une toile de Kandinsky peut être bouleversé. C'est ça quand vous dites que les œuvres se parlent. Ils peuvent parler aussi aux gens directement sans qu'on leur fasse tout un cours.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, moi, je pense qu'il faut remplacer les panneaux publicitaires dans toute la France par des grandes œuvres d'art, par des tableaux. Voilà. Et ça, les gens auront un environnement qui les bouleversera, qui les nourrira.
Que financer l'action culturelle, il faudrait financer l'art, en fait.
Financer l'art et le faire partager plus largement aux gens, parce que c'est un vrai plaisir. Voilà. Alors, c'est bien qu'on appelle une voiture Picasso. C'est mieux si on monte ses œuvres sur les panneaux publicitaires.
Vous posez la question, Jean-Michel Ribes, c'est passionnant, de l'art populaire et de l'art bourgeois. Sulky et Sulcu s'interrogent sur ces deux notions. Vous situez où, vous?
Non, ça c'est une plaisanterie. Je pense que l'art c'est l'art, qu'il soit populaire, qu'il soit bourgeois, qu'il soit élitiste, l'art c'est l'art. Il y a un moment où c'est quelque chose qui vous fait vivre mieux, qui vous transporte. Et voilà, chacun a son art. Mais je veux dire que je préfère le mot art au mot culture, en tout cas.
Il est teinté d'absurde, votre travail. L'absurde, vous le maniez à loisir et depuis toujours. Jean-Michel, on parlait de résistance tout à l'heure. À quoi nous permet de résister l'absurde, justement?
Ben, l'absurde, je pense que c'est, en vérité, l'absurde, c'est la vraie... Moi, je suis un peu allergique à la réalité, mais l'absurde, c'est la réalité. C'est-à-dire, le monde est totalement absurde. Alors, il y a les ricaneurs qui s'amusent à la superficie des choses, mais l'absurde, c'est la racine. C'est la racine des choses et ça booste beaucoup de trucs, hein. Je veux dire, vous savez, en attendant Godot, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'incroyable difficulté qu'est d'être sur Terre? Et c'est quand même raconté, soi-disant avec de l'absurde, mais ça va au fond des choses.
Ça permet de résister à l'angoisse aussi.
Oui, absolument. Voilà. C'est une suite, absolument. C'est une tentative de détruire l'angoisse et de détruire le formatage et de détruire tout ce qui vous emprisonne.
Qu'est-ce qui vous angoisse, vous?
Moi, je suis un professionnel de l'angoisse. C'est-à-dire que ma mère était déjà à angoisse. On aurait pu mettre la photo de ma mère dans le dictionnaire. Donc, elle m'en a passé. je suis un professionnel de l'angoisse. Et tout ce que je fais dans la vie, c'est pour m'en débarrasser.
Ça veut dire qu'on est forcément angoissé quand on crée pour vous ?
Je ne dirais pas de généralité, mais je pense en effet que les gens qui ont vraiment de l'humour, c'est-à-dire c'est des gens qui transforment leur mal en bonheur. Et c'est ça le grand humour, c'est de lutter, c'est de détruire le malheur par l'humour.
Je vous propose qu'on fasse ça avec un duo plein d'humour, un dialogue entre deux joyeux et conduits, mais en musique, s'il vous plaît. Ella Fitzgerald et Louis Armstrong qui chantaient en 1956 Can't We Be Friends. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Michel Rive. Vous écoutez Boomerang.
Thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? Papa, that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il n'y en a pas deux comme lui, hein. Il est quelque part, vous savez, entre le professeur Tournesol, Albert Einstein et un personnage de Tim Burton ou de Lewis Carroll. Regard en coin, bouche de pantin farceur, bouc de centaure, cavaleur, bouclette de marquise pomponnée, gracieux mollet d'alpiniste tout en couleur, à la Jacques Demy, chemise bleu clair, pull rose, chapeau violet, c'est presque un arc-en-ciel, Jean-Michel Ribes.
Oui. J'aurais aimé Marilyn Monroe dans le portrait, mais bon, tant pis.
Invité de Boomerang ce matin pour son délicieux spectacle. Sulky et Sulky ont des conversations intelligentes. Spectacle que vous avez écrit, mis en scène, que vous hébergez au Théâtre du Rond-Point, dont vous êtes le directeur. C'est une conversation entre deux personnages, œuvres d'art, on le disait, qui se retrouvent dans un musée. Alors leur souci, c'est que l'un comme l'autre déplore que les rendez-vous soient devenus vides. Ils constatent une dégringolade du rendez-vous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah, moi, je vais vous dire, je vais pas expliquer les choses. Par exemple, tous les rendez-vous ne dégringolent pas. Par exemple, le nôtre, ce matin, me semble, redonner vie au rendez-vous. Redore le rendez-vous. Mais il y a quand même des rendez-vous qui sont inutiles.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un rendez-vous soit réussi?
Eh ben, il faut que les gens soient sur la même longueur d'onde et qu'ils sachent rire, qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Un rendez-vous réussi, c'est un rendez-vous à l'issue duquel on doit se dire, on va écrire soit le roi Lear, soit on va faire le 8,5 de Fellini.
Et puis, il faut qu'il y ait des mots, j'ai l'impression. Voilà ce que dit Sulky. Ça n'a plus de goût, le rendez-vous aujourd'hui, c'est transparent. On voit à travers les mots quand il y en a, parce que beaucoup de rendez-vous n'ont plus de mots, ou presque plus. Et je me demande, Jean-Michel Ribes, si cette pièce était avant tout une pièce sur le langage.
Oui, c'est vrai. Elle est très écrite et c'est vrai que ça, j'aime bien ce que vous dites, comme toujours d'ailleurs. Je suis obligé de dire comme toujours parce qu'il faut que je montre combien je suis content d'être avec vous.
Parce que vous écoutez Boomerang, j'en suis ravi.
Tous les jours.
C'est sympa.
Tous les jours. Et je vous demande de le croire.
Le langage, ah, ouais. Jean-Michel.
Oui, le langage, c'est quoi? Le langage, c'est tout. C'est-à-dire, le langage, c'est vous, c'est moi. Au début, il y avait le verbe, etc. Les gens qui sont sans langage. Moi, j'adore les gens qui disent le silence est d'or, la parole est d'argent. Non. Mais le silence, il y a aussi des crétins qui se taisent.
Et vous écoutez, j'ai l'impression que quand vous parlez de langage, quand vous parlez de vos personnages, c'est comme si les mots étaient vivants.
En fait. Mais c'est évidemment, c'est le théâtre, c'est ça le théâtre, c'est un dialogue. Et le dialogue, c'est le seul endroit où la viande et l'esprit se mélangent. Quand vous écrivez, vous lisez un livre, ça suffit, l'esprit suffit. Quand vous voyez de la danse, la viande suffit. Mais au théâtre, il faut que l'acteur bouge en parlant et parle en bougeant. Donc c'est vraiment un endroit où le langage donne la vie et anime les corps.
Comment il est né votre intérêt pour les mots?
Ben, je pense que c'est parce que je me suis aperçu que comme je suis pas champion de ski, athlète, mathématicien, je me suis dit que la seule chose que je pouvais essayer de faire pour rencontrer les gens, c'est de leur parler.
Et alors ça se travaille?
C'est-à-dire les mots font des mots. C'est-à-dire que les mots engendrent des mots.
C'est un petit peu comme le sexe, il faut en faire pour pouvoir continuer à en faire.
Voilà, et il devient de plus en plus beau. Simplement, c'est les partenaires, il ne faut pas les louper.
Est-ce que vous avez l'impression parfois qu'ils sont en train de mourir, les mots, aujourd'hui?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce qui me tue, c'est les, comment on dit, les smileys, les trucs, les petits...
Les émoticônes, point, Jean-Michel.
Oui, les émoticônes, les trucs. C'est-à-dire, je me souviens, Rodrigo Garcia me disait...
Les emojis.
Oui, les emojis. Rodrigo me disait, j'ai écrit une lettre magnifique à quelqu'un, il m'a simplement... ça m'a pris 3 jours pour l'écrire, 12 pages, et il m'a envoyé un mot avec le pouce en l'air. C'est bien. Donc c'est vrai que là, c'est un peu réducteur.
Me dites pas que vous n'avez jamais envoyé un cœur.
Ah si.
Bon bah voilà.
Oui. Moi, j'aimerais... Mais un cœur, mais quand tout d'un coup, j'ai honte de dire l'amour que je porte parce que je trouve que je suis nul.
C'est la pudeur, l'emoji, l'émoticône en fait. J'aimerais qu'on écoute quelque chose. C'est une archive que vous avez choisi de nous faire écouter et qui touche précisément au langage, une archive extraordinaire de 1969 où on entend le président Georges Pompidou répondre à la question d'un journaliste.
Je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond?
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs.
Le président Pompidou qui répondait donc par les mots d'Éluard à l'affaire Gabriel Russier. Pourquoi cette archive?
Parce que tout d'un coup, je trouve que quand le, j'étais pas un fanatique de, enfin j'étais jeune, mais la fanatique de Mobutu, mais quand tout d'un coup le chef de l'État peut livrer un poème d'Éluard pour réduire à rien quelque chose qui était ignoble, qui est cette pauvre Gabrielle Russier, parce qu'elle aimait un élève de 14 ans, elle était, c'est une vraie histoire d'amour, a fini par se suicider. Je trouve que répondre ça, c'est à hauteur d'un chef de l'État. Et j'aimerais que les chefs de l'État s'aperçoivent que les citoyens adorent quand, en plus, on se dit, ils ont lu des livres qu'on n'a pas lus et ils nous apportent la santé, l'éclairage et la poésie. C'est aussi un acte politique que d'être un poète.
Quand vous entendez les hommes politiques parler aujourd'hui, précisément, vous entendez quoi ?
J'entends rien.
Rien ?
Pas grand-chose.
Notre actuel président de la République, par exemple ?
Non, très, très, très sympathique, je le connais un petit peu, très...
Ah, nous voilà bien.
Oui. Bah, je, comme ça, il est passé dans mon théâtre et tout ça, donc... Non, je trouve que, bon, il faut lui donner sa chance, il avance, il se bat, il est courageux, etc. Maintenant, bon, on est un peu dans la bande-annonce, on verra le film après.
Mais pourquoi, à votre avis, Jean-Michel Ribes, est-ce que la poésie a déserté le discours de bon nombre d'hommes politiques ?
D'abord, je sais pas s'il y en a eu beaucoup, à part Jaurès et quelques-uns, Blum, etc., qui avaient vraiment, qui étaient des écrivains, qui étaient des artistes. Moi, je pense que pour faire de la politique, faut être un artiste. Faut inventer les mots. Faut inventer le monde. Faut pas simplement l'expliquer ou se projeter. C'est à partir du moment où on saute dans le vide qu'on trouve d'autres planètes. Sinon, on reste sur une route un peu embourbée ou des autoroutes un peu fatigantes.
Et puis peut-être aussi, parce que la culture de l'image s'est substituée à celle du langage.
Oui, c'est vrai. Bah, maintenant, le physique compte beaucoup pour être élu.
On est foutu, Jean-Michel.
Oui.
Comment on fait pour résister aux images qui peuvent parfois figer aussi?
Bah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner les images complètement, parce qu'il y a des images qui dénoncent, il y a des images fortes, il y a tout le travail de ces photographes de guerre qui ont dénoncé tout ça. L'image n'est pas en soi quelque chose qui est regrettable. L'image est épouvantable quand elle devient simplement quelque chose qui est du marketing ou de la publicité ou des choses comme ça. Ça, c'est un détournement de l'image. Je trouve que... Alors, il y a des grandes publicités, mais ce que je vous dis encore, mettons vraiment des toiles de Picasso, des toiles de Rembrandt, des toiles comme ça sur les panneaux publicitaires. Ce sera magnifique, les gens vivront mieux et respireront, et auront l'impression aussi que tous ces gens appartiennent à tout le monde.
Il n'empêche, pour résister aux images, s'il faut résister aux images, on peut aussi, je sais pas moi, avoir des conversations intelligentes, par exemple.
Oui, ou avoir une... éteindre la télé, pardon.
Ouais, par exemple. Vous éteignez souvent la télé, vous ?
Moi, je ne la regarde plus, malheureusement. Malheureusement, parce qu'à un moment, je la regardais beaucoup, quand il n'y avait pas là, c'est Merci Bernard.
C'était vous. Merci infiniment, Jean-Michel Ribes, d'être venu faire un tour dans Boumang.
C'est un plaisir, vraiment.
Je rappelle que Sulky et Sulky ont des conversations intelligentes avec les très spirituels Romain Cottard et Damien Zanoli, est au théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 décembre. C'est un partenariat France Inter. Ça ne mange pas de pain de le rappeler, quand même. J'en profite aussi pour vous rappeler, et à vous le premier, de vous abonner au podcast de Boomerang. C'est gratuit. On dit oui, et on dit oui aussi à Sonia De Villers et son Instant M, parce qu'on est comme ça, et que c'est juste après ça.
C'est le monsieur dort dehors. C'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien.